Et là, je tombe sur le jeu le plus extraordinaire auquel j'ai jamais joué.
Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Le retour.
Yes. Et on a le plaisir d'accueillir Mustapha Ndom. Mustapha est responsable de la communication interne au siège monde d'Ubisoft, et c'est également un danseur et dessinateur de talent. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à aller checker ses illustrations sur Insta, mousse_otakool, et bien sûr, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Comment tu vas aujourd'hui, Mustapha ?
Bah moi, ça va super bien, et ça va encore mieux quand j'entends cette présentation, parce que tu sais, moi j'écoute le podcast depuis le début, tu sais, et là, je suis avancé d'être dans les coulisses, je me suis dit « Ah, c'est moi qui suis là et tout, ça déchire !»
Ouais, carrément. Et ouais, mini parenthèse, c'est vrai que tu nous écoutes souvent, tu partages, tu t'en parles autour de toi, ça fait super plaisir, donc merci beaucoup et ouais, on est content de te recevoir aujourd'hui.
Non, bah merci à vous, hein, parce qu'honnêtement, je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment cool. Je trouve qu'il y a, comme tu le dis, hein, c'est la bienveillance, c'est des discussions, t'as l'impression d'être avec tes potes et tout. Moi, j'ai l'impression que je vous connais depuis un an et tout. Alors qu'en fait, on se parle que sur Insta, tu vois, mais tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est la famille, donc enchanté d'être là et de raconter ma vie. À tout le monde, du coup.
Trop bien. Bah, ouais, avant de partir sur ton top 3 des jeux qui t'ont marqué, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots ton taf de responsable communication interne chez Ubisoft ?
Oui, responsable de la communication interne, tout simplement, pour faire simple, ça va être un rôle de création de connexion entre les collaborateurs et les personnes qui travaillent chez Ubisoft, à la fois en termes de redescendre d'informations pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce qui se fait un petit peu partout chez Ubisoft. Et on a aussi un petit peu ce rôle de justement de créer des liens entre les gens, que ce soit par le biais d'événements, d'animations ou par du contenu vidéo qu'on crée et sur lequel on est assez bon, hein, si je peux me permettre. Et du coup voilà, donc c'est ce que je fais tout le temps et je le fais dans une boîte qui est super cool. Donc voilà, je suis très content.
Trop bien. Et fun fact, mais en préparant l'interview, j'ai cru comprendre que t'étais pas mal impliqué par le passé avec Just Dance.
C'est ça, parce que ouais, avant d'être responsable de la communication interne, j'ai été community developer sur Just Dance. J'ai fait ça pendant 5 ans, et honnêtement, c'est j'ai failli prendre Just Dance, hein, comme un des jeux mais je me suis dit on va se limiter sur vraiment les jeux. Mais des jeux cultes et essayer de sortir un petit peu du taf, on va dire. Mais ouais, voilà, j'ai été community developer sur Just Dance pendant 5 ans, donc j'ai beaucoup dansé, j'ai beaucoup voyagé, c'était très cool, c'est vraiment une super communauté, donc ça fait partie de mon expérience et j'en suis très très fier.
Top. Bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors, pour le premier jeu de ton top 3, on retourne dans les années 90 pour s'intéresser à une légende des jeux de combat. J'ai nommé Street Fighter. Donc, on va s'intéresser à Street Fighter 2, The World Warrior. Le jeu est développé par Capcom et édité aussi par Capcom. Et il est sorti initialement en 1991 sur les bornes d'arcade et ensuite dès 92 sur Super Nintendo. Toi, c'est quoi les premiers souvenirs que t'as quand on parle du jeu ?
Bah, c'est ça. En fait, pour moi, c'est vraiment un jeu culte parce que j'ai l'impression que Street Fighter 2, ça a été un petit peu comme une manière pour moi de renouer vraiment avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que je suis une personne d'un certain âge, donc j'ai commencé moi à jouer aux jeux vidéo, donc ma première console c'était la NES, donc Super Mario Bros, etc. et tout, donc je jouais pas mal avec mes frères et sœurs, je jouais avec mes potes, etc. et tout, et Street Fighter 2, je l'ai découvert chez un pote, en fait ça passait dans une émission de jeux vidéo de l'époque qui passait sur est-ce que c'était France 2 encore? Est-ce que c'était pas Antenne 2 à l'époque? Non, j'abuse peut-être un peu. Mais c'est une émission qui s'appelait Télévisateur 2, présentée par Cyril Drevet, hein, qu'on apprécie toujours. Et du coup, j'étais sur mon pote, il me dit ah bah tiens regarde, c'est un jeu qui marche de ouf, genre au Japon, bande d'arcade et tout ça. Après Street Fighter 2 et jeu de combat, nous on connaissait pas parce qu'en vrai on avait la NES, on avait les jeux, c'était beaucoup les jeux de plateforme qui étaient assez populaires à l'époque. Et du coup, tu vois ces deux persos qui sont là face à face, l'un en face de l'autre et qui se donnent des coups. Bon, je regardais de loin, mais je me dis ok, peut-être que ça va le faire et tout. Et donc sort la Super Nintendo, console que je n'ai pas eue. Donc moi, ce qu'il faut savoir avec mon histoire avec les jeux vidéo, c'est que j'ai beaucoup été un squatteur de consoles. J'en ai pas eu beaucoup. Et en l'occurrence, là, Street Fighter 2, c'était chez ce même pote en question auquel j'ai pu y jouer la première fois. Et en vrai, t'avais vraiment cette impression redécouvrir le jeu vidéo, parce que ça va en avoir, c'est le console 16 bits, etc. T'avais les sons, t'avais les effets spéciaux, et t'avais tout ce qui fait Street Fighter 2 et qui fait que ça a été un phénomène au moment où c'est sorti. Et j'ai énormément de souvenirs avec mes potes. On a passé des après-midi, enfin tout le monde y jouait. Au moment où c'est sorti, enfin c'est vraiment un jeu culte de l'époque. Et ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de ça, après avoir commencé à jouer à Street Fighter 2 et toujours en squattant chez mes potes, j'ai l'impression que j'ai joué à tous les Street Fighter qui sont sortis jusque-là. Et puis pour moi, au-delà d'être un jeu culte qui m'a marqué, donc pas de par sa technologie et l'impact qu'il a eu dans la culture, c'était vraiment pour moi, c'est le jeu culte de base des jeux de baston. Je veux dire le bas avant A et le bas avant Y pour faire les Hadouken et le bas avant Y pour faire le Shoryuken, c'est les mouvements de base qu'après tu retrouves dans tous les jeux. Et c'est Street Fighter qui l'a initié, qui l'a lancé. Et c'est ça. Après, c'est énormément de souvenirs de Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Prime qui est sorti après sur Mega Drive. Ensuite, Super Street Fighter 2 auquel j'ai joué, mais sur bande d'arcade. Je suis vieux, hein. J'ai les jeux comme ça. Je les ai découverts. Il y a des jeux comme ça que j'ai découvert sur bande d'arcade. Même les Street Fighter 3, etc. J'avais des salles d'arcade qui les mettaient à disposition. Et c'est sur ces bandes d'arcade que j'ai joué en premier. Et ensuite, de Street Fighter 2, donc, avoir été un fan de tous les jeux de combat, et d'y avoir beaucoup joué, t'as ensuite l'autre claque. C'est Street Fighter Alpha. Alors là, ça y est, c'était parti. Celui qui est sorti sur PlayStation. Donc là aussi, un autre gap et autant de fun à jouer avec mes potes et tout. Donc ouais, j'ai pris Street Fighter 2 parce que vraiment c'est ouais voilà un jeu culte. C'est énormément de bons souvenirs avec mes potes et puis voilà un jeu de c'est la base.
Et comme tu as dit, là, tu parlais du 2, enfin de toutes les différentes versions du 2, puis du 3. Et c'est quoi ton rapport actuel? Parce que je sais qu'il y a Street Fighter 5.
Street Fighter 5 que j'ai, parce que forcément, j'étais obligé de l'acheter. Et auquel j'ai beaucoup joué. Mais là, le truc, c'est que maintenant, je suis plus un joueur solo. Je passe beaucoup avec mes potes parce qu'on est vieux et qu'on a des enfants et qu'on n'a plus le temps. Donc, je joue beaucoup à des jeux solo. Mais les jeux de combat, Street Fighter, j'étais un peu obligé de l'avoir, même si c'était de jouer contre Alors jouer en ligne, c'est impossible parce que non, je suis désolé, mais les gens c'est des malades mentaux, ils sont trop forts. tu sens le matchmaking. Non, je suis désolé, tu débarques, tu te fais éclater tout le temps et t'as plus envie en fait. Du coup, maintenant tu te concentres après sur le mode aventure, parce que tu sais, il y a genre une histoire des fois dans Street Fighter 2, en fait il y a pas que des combats, en fait il y a un genre de scénario et tout, donc t'essayes d'avancer un petit peu sur ça et de continuer à te faire l'expérience et tout, mais c'est vrai que c'est pas pareil du coup, parce que je joue pas avec des bots où on n'est pas en train de se mettre sur la gueule, etc., l'un en face de l'autre, mais je pense qu'effectivement il me sort un Street Fighter 6, je pense que je le prends aussi, le 7, le 8, le 9, qui continue d'en faire, je vais continuer de les acheter parce que c'est la base, quoi.
Ça me fait penser, en fait, Street Fighter, moi j'ai pas beaucoup joué à Street Fighter. Le moment où j'y ai joué, je crois la dernière fois, ça devait être un sur borne arcade au Japon. Ouais. Avec un pote ultra fan, il m'a dégommé. Genre, tu sais, quand tu sais pas jouer, comme t'as dit, là, tu t'as donné les combinaisons bas, haut.
Ouais, ça.
Moi, je faisais juste gauche-droite. Donc vraiment, et en fait, j'ai regardé un pote jouer qui streamait ça sur Discord, le 5. Et en effet, genre, il y a un système de, il y a des gens qui t'attendent un peu, genre, tu sais, comme sur un ring, et puis tu rentres un peu sur leur ring. Puis là, du coup, tu peux commencer à te battre et je crois, pour gagner du rank, il faut faire un truc genre 4 victoires de suite, ce qui est énorme. Enfin,
mais faut savoir que Street Fighter déjà de base, c'est un jeu hyper compétitif et déjà à l'époque quand t'avais pas encore de scène e-sport, moi je me rappelle, il y avait un mec dans la salle d'arcade où j'allais jouer qui s'appelait Pac. Et le mec, il faisait tous les meilleurs scores à chaque fois. Il nous foutait le seum parce que tu le voyais, tous les meilleurs scores sur tous les jeux de combat déjà de base, c'était lui. Et Street, il était imbattable. Et déjà, du coup, à cette époque-là, t'avais déjà ce côté compétitif à mort. Mm-hmm. Et là, du coup, avec la scène de l'esport, Street Fighter 5, ouais, t'as encore des compétitions qui se font maintenant. Et c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et c'est un jeu ultra technique. Enfin, c'est ouf comment est-ce qu'ils ont réussi à ce point à en faire un vrai jeu de e-sport et hyper sharp au niveau du gameplay et tout, parce que typiquement moi je parlais tout à l'heure de Street Fighter Alpha, moi les premiers trucs qu'ils ont commencé à intégrer dans le jeu et qui ont rendu le truc un peu technique, c'était les contre-attaques, genre pour protéger quand tu joues tu dois faire arrière, et si au moment où te tapes justement t'es en protection et que tu fais bas, ça te fait une contre-attaque et tu retapes ton pote et tu peux le défoncer, tu vois. Okay. Et là c'était les premiers trucs genre un petit peu technique, et des fois tu faisais des contre-attaques sur contre-attaques sur contre-attaques, et toi-même des fois tu jouais, tu te fais oh! Et là je sais très bien, là je rejoue, là je me fais éclater, mais honnêtement tu comprends qu'il y a grave moyen justement de rendre le jeu hyper technique et d'avoir des trucs hyper pointus, quoi. Donc non c'est carrément mérité, quoi.
Tu parlais de jouer en arcade, ça devait être hyper frustrant, hein. Tu parlais de bac là, de payer pour perdre au final, parce que c'est vraiment, tu payes ta partie et tout.
C'était 10 francs.
Ok.
Tu payes 10 francs, tu faisais deux parties. Et quand tu te faisais éclater par pack, ouais, je peux te garantir que t'as le seum, parce que tes 10 francs, tu les retrouves pas. Donc, putain, regarde-moi parler comme un boomer là, laisse tomber.
Et pour le coup, est-ce que t'avais un personnage préféré que tu reprenais tout le temps ou...
Alors honnêtement, moi ce qui me marque quand je m'en souviens, c'est que le premier perso que j'ai pris, c'était Dalsim. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est celui qui a un peu allongé ses bras et tout.
Indien, ouais.
Ouais, exactement. Et quand je suis arrivé, en fait, c'est le premier que tu prends parce que justement tous les autres persos ils sont là, fait bah vas-y, mets des coups de poing et le poing il reste à côté, ça sert à rien, tu vois. Du coup, tu sais pas jouer. Le premier perso que tu prends, c'est celui dont t'es sûr que même en étant à l'autre bout de l'écran, tu peux quand même le toucher. Donc du coup, tu joues avec Dalsim. Et genre c'était un peu mon perso. À un moment parce que c'était un petit peu de la triche et tout, et après au fur et à mesure je suis passé sur Chun-Li.
Okay.
Chun-Li perso féminin avec ses coups de pied, ses hélicoptères, etc., qui était assez cool. Et ensuite dans les Street Alpha, après tu reviens sur Ken, Ryu, parce que aussi voilà, comme je disais, genre Shoryuken et tout,
la base
quoi. Donc voilà, super souvenir, super jeu. Jouez-y si vous pouvez.
Okay.
Il a pris un coup de vieux, mais ça vaut le coup.
Mais l'accueil, l'effet sonore, enfin, je pense que tout le monde qui joue aux jeux vidéo connaît un minimum, juste visuellement, ce à quoi ressemble Street Fighter, quoi.
Non, c'est ça. C'est ça.
Moi, le mash-up de boutons, je crois que c'est trop compliqué pour moi.
Le mash-up de boutons, ça y est.
Ouais, c'est-à-dire, quand tu fais des haut, bas, gauche, droite, machin, essayer de comprendre aussi ce que l'autre est en train de faire, parce que, tu sais, faut quand même connaître les moves en face.
Ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, mais c'est
un... Je suis un bon spectateur, par contre. Ah, tu te fais défoncer. Et sinon, ouais, j'ai jamais été réinvité à regarder le stream, je pense que je sais pourquoi, mais c'est sûr, à regarder, et franchement, c'est impressionnant, quoi.
Non, c'est clair.
Passons à ton deuxième jeu.
Yes.
Pour ton second jeu, on retrouve Final Fantasy VII, le jeu de rôle développé par Square et sorti en 1997 sur PlayStation. C'était le premier Final Fantasy à utiliser les graphismes en 3D. Et ben, comme on le sait, il a connu un énorme succès critique et commercial. Et il a eu droit à son remake en 2020 sur PlayStation 4. Première question, peut-être, pourquoi ce Final Fantasy-là et pas un autre ?
Bah en fait là le problème c'est que le temps est limité, hein. Mais si vous voulez qu'on parle de Final Fantasy VII, mais là je vous fais des heures et des heures.
Ouais.
En fait un peu comme pour Street Fighter 2, j'aime bien me souvenir un petit peu de comment j'ai découvert le jeu, et je me souviens que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un magazine Console Plus, qui parlait d'un, en gros je le feuilletais, et il parlait d'un jeu de rôle japonais qui apparemment était super cool. Il avait une note genre de 96%, un truc comme ça. Et après, tu voyais les avis des testeurs et les gens disaient qu'ils étaient emballés, etc., machin et tout. Donc moi, là, je lis et je sais que je m'en rappelle, mais je ne calcule pas plus que ça. Et un jour, je vais chez un pote qui est en train d'y jouer et qui joue à Final Fantasy VII et qui me dit « Ah là là, ce jeu, il est trop bien, monsieur. En quoi c'est trop bien ?» Tu tapes, t'attends, on te retape, t'attends et tu retapes. C'est quoi ton jeu? Juste avant, moi, j'étais venu de me taper sur Tekken ou sur Street Fighter Alpha, des trucs comme ça. Et je dis, mais c'est quoi cette dynamique de merde? Et un autre jour, c'est un autre pote à qui on avait prêté Final Fantasy VII. Et il me dit, ah là là, je suis à fond dans Final Fantasy et tout machin, c'est trop bien. Je suis à bon. Et du coup, on commence à jouer ensemble. Je découvre le jeu. Et voilà. C'est fini. Et là, je tombe sur le jeu le plus extraordinaire auquel j'ai jamais joué. C'était une expérience incroyable avec un monde. En fait, c'est la première fois que je jouais à un jeu qui était aussi vaste et qui avait autant de dimensions, tu vois, en termes de casting. Il y avait un milliard de personnages, ils étaient tous creusés, tous travaillés de ouf. Le monde, il était incroyable. C'est-à-dire que tu commences à Midgar et tu te dis, ok, c'est un RPG, machin, tu fais une aventure dans la ville. Et quand tu commences à sortir, tu pars dans les airs, tu vas sous la mer, tu vas jusque dans l'espace. Et honnêtement, moi, ce jeu, il m'a marqué. Enfin, pour moi, c'est mon jeu préféré en vrai.
Ok.
Jeu préféré.
All time.
Parce que il a carrément, je pense, changé mon approche du jeu vidéo et forgé la manière dont je consomme le jeu, ce que j'aime dans le jeu vidéo, ce que j'apprécie dans la pop culture, même d'une manière générale. Pop culture, donc tout ce que j'aime. Se retrouve dans Final Fantasy VII. Le jeu était beau, les musiques étaient extraordinaires, les personnages étaient travaillés, le gameplay et le système de jeu avec les matériaux, enfin c'était creusé de ouf. J'étais avec un pote, on se faisait des combinaisons de matériaux sur les cahiers de cours, en fait. On essayait de deviner comment faire les meilleures combinaisons pour avoir les meilleures magies, etc. Enfin, c'était un truc de ouf.
Est-ce que ça marchait ou pas?
Tu devais essayer énormément. Franchement, c'était tellement complexe. Il y avait tellement de combinaisons qui étaient possibles. C'est que t'essayes de voir ce qui fonctionne le mieux, etc. Et tout. Et au final, il y a tellement de trucs que les caractères design des dessins de Tetsuya Nomura que j'ai découvert pour la première fois. À ce moment-là, et ensuite, j'ai pas arrêté de suivre tous ces délires jusqu'à ce qu'il, enfin, même dans tout ce qu'il fait, même dans, actuellement dans Kingdom Hearts, les Final Fantasy 8, 9, 10, tous, quoi. Je trouve que son design aussi est charmé et je pense qu'il a eu énormément d'impact sur moi, parce que comme je le disais, il a forgé même la manière dont moi j'apprécie maintenant le jeu vidéo, et je suis devenu fan des RPG japonais, surtout parce que je pense qu'il y a une patte particulière dans les RPG japonais. Je pense que c'est beaucoup lié aussi à mon appréciation de la culture, de la pop culture japonaise de manière générale, parce que moi je suis fan de manga et d'animé, etc. Donc il y a cet aspect-là qu'on retrouve beaucoup dans les RPG japonais et en particulier dans Final Fantasy VII, quand les personnages ils ont un design très très manga, etc. Et jusqu'à maintenant là, cette passion pour Final Fantasy, elle me poursuit. Il y a un moment de ma vie l'année dernière, j'ai même fait un post Insta à ce sujet où je jouais au remake de Final Fantasy VII sur PS4. En même temps que je refaisais la version Switch de Final Fantasy VII premier du nom, en même temps que je lisais un bouquin sur l'histoire de Final Fantasy, s'il te plaît. Final Fantasy VII en particulier, parce que c'est un bouquin qui est sorti chez Sword Edition et qui reprend tout le lore de Final Fantasy VII en particulier, parce que moi je suis fan du jeu de base, mais il y a énormément de spin-off, de jeux qui se passent dans le même univers, qui sont sortis sur d'autres consoles, sur PS2 que j'ai pas forcément tous fait, d'autres qui sont sortis aussi sur mobile au Japon et que j'ai pas fait non plus, des versions qui sont sorties sur PSP aussi, Crisis Core que j'ai fait par contre, et en fait le bouquin en particulier de Sword Edition, il raconte le scénario de tous ces jeux-là dans un ordre chronologique, okay. Et qui te révèle aussi des trucs que tu connaissais pas et t'apprends des trucs, et même découvert des choses sur le mon jeu préféré, genre culte, que moi-même j'avais pas remarqué parce que bah alors le gros défaut de Final Fantasy VII, c'est la traduction. Les dialogues ils sont pétés à certains moments parce que je sais plus c'était quoi le souci, c'est que c'était traduit d'une version pas de la version directement de la version japonaise mais de la version anglaise et retraduite, enfin bref c'était un bazar. Et il y a des moments où
t'as de la perte quoi, tu comprends,
il y a des moments des trucs que tu comprenais pas. Et même là, même dans la version Switch, il y a des trucs, des fameux dialogues qui sont que j'ai vus, qui m'ont marqué parce qu'ils étaient complètement pourris et que j'ai retrouvé dans cette version. J'ai dit, putain, ils nous ressortent une version sur la Switch qui est d'ailleurs la meilleure console du monde. Je tiens à le placer au cas où. Ils nous ressortent une version sur la Switch. Ils sont même pas foutus de refaire les dialogues pour que ce soit un peu cool et tout. Donc j'étais un peu frustré. Mais du coup, en relisant le bouquin, bah ça te remet les pièces du puzzle ensemble et du coup, tu t'es dit ouais. C'est encore mieux que ce que tu imaginais, quoi. Et un autre souvenir que j'ai aussi, c'était un moment où j'étais parti au Bled pendant 2 mois, comme à l'époque quand tu pars avec tes parents et que du coup ils te prennent et tu pars pendant 2 mois. Et y avait souvent à ce moment-là, quand on partait en vacances avec mes potes, on s'envoyait des lettres carrément. Oui, okay. Oui, je suis vieux. On s'envoyait des courriers. On s'envoyait plus des cartes postales, etc. et tout pour se montrer où on était en vacances et tout. Autant s'envoyer aussi des lettres. Et j'ai encore, je crois que je l'ai encore là, chez moi, là, la lettre d'un de mes potes. Parce que lui, du coup, parce qu'en fait, je suis parti en vacances pendant qu'on était en train de jouer ensemble à Final Fantasy VII. Donc moi, ce jeu, je l'ai fait avec ce pote-là. Donc on l'a fait ensemble. Donc on le vivait ensemble et tout. Et j'étais parti pendant qu'on était en train de jouer. Donc lui, il a continué. Et dans la lettre, au lieu de me raconter ses vacances, il me dit, ah, oh là là, là, en fait, je suis arrivé dans une partie manoir de la Shinra, et en fait, t'apprends que tel personnage, en fait, c'est pas celui qu'on croit. Il me racontait toute la cutscene, etc. et tout. Et moi, j'étais trop content, tu vois. J'étais même pas là en train de me dire, je spoilais tout. Ben non, parce que je savais que quand j'allais rentrer, on allait reprendre le truc. Et là, il me racontait, il m'updatait sur le moment là où on était. Et moi, franchement, j'étais refait. Je te refais, et honnêtement, non, trop cool. Meilleur jeu, meilleur souvenir, meilleur méchant aussi de l'histoire du jeu vidéo. Je pense que, on a déjà parlé de FF7 dans notre podcast.
Une fois, je sais plus avec Mijo aussi, ouais. Avec ouais. Mijo.
Sephiroth. Ouais. Le meilleur méchant de l'histoire du jeu vidéo. Il est trop cool. Il a un design de ouf. Il a l'histoire trop stylé. Il a une histoire qui est profonde de ouf. Tu t'attaches à lui alors que c'est un méchant. Il t'a envie de le détester, mais tu peux pas parce qu'il est beaucoup trop cool, en fait. Donc, lui, il arrive, il te plante avec son épée. T'es content parce que tu dis, je suis planté par Sephiroth. Il est tellement cool, tu vois. Et un truc, c'est, je parlais tout à l'heure des musiques. Mais moi, le truc qui m'a mis aussi un coup de poing dans le, qui m'a tabassé la gueule, c'est pas vraiment un spoil, mais bon, au bout d'un moment, t'arrives à la fin, donc forcément, c'est le boss final. Et la musique de fin de Final Fantasy VII, le dernier boss Sephiroth, One Winged Angel.
T'as le nom et tout.
C'est dans la playlist, ça.
Ah, mais non, mais je l'écoute au moins, franchement, je l'écoute tous les ans, il y a un moment dans ma vie où je suis obligé de l'écouter. Ça et le générique d'Evangelion, mais c'est autre chose, on en reparlera dans un autre podcast quand vous parlerez des animés. Mais la version symphonique de la musique de fin de Sephiroth, c'est cultissime. C'est à dire que toi t'es là, tu joues à un jeu où déjà les musiques sont ouf, et là t'as un chœur qui chante des paroles et qui chante le nom du méchant pendant que t'es en train de te taper contre lui. T'es en termes d'expérience, quand t'es là et que tu t'arrives au dernier, t'as la tension dramatique d'arriver au dernier boss. T'es là, il est là avec son design, avec ses ailes, il est au-dessus de toi, il t'éclate parce qu'il est trop fort et que t'es à la limite en train de te battre contre un demi-dieu. Et en même temps, t'as cet orchestre symphonique qui te balance de la musique avec un chœur qui est en train de chanter et des louanges de ce mec que tu dois. Enfin. Non,
tu m'as hypé là.
C'est trop, c'est beaucoup trop. Et le pire, c'est qu'ils ont, franchement, le remake, ils ont grave assuré à ce niveau-là parce que dans le remake, justement, ils reprennent pas tout le jeu parce que le jeu, il fait 3 CD. Je sais plus combien d'heures t'as, 60 heures, un truc comme ça. Et sur le remake, il se limite à une première partie du jeu qui se passe à Midgar. Mais il y a quand même un côté, il y a un moment où tu affrontes Sephiroth, où il y a un côté un petit peu épique et côté un petit peu dernier boss et tout. Et ça, ils ont la musique, les réorchestrations et tout ça, ils ont également retravaillé et tout. Et moi, ça m'a remis dedans. Et en fait, c'est le genre de truc où, tu sais, au lieu de me dire oh là encore un FF7 encore c'est ouais. Vieux non donne si vous faites ça à chaque fois j'ai dit moi je prends parce qu'ils sont non ils ont fait un taf de ouf le jeu enfin le remake pareil magnifique ça te c'est une réinterprétation un peu de l'univers tu rentres un petit peu plus dans les détails de l'histoire de certains persos tu redécouvres le monde en HD tu te balades vraiment dans l'univers que tu découvres plus en détail etc et tout donc pareil le remake je le conseille le jeu de base je le conseille et puis voilà j'en ai assez dit je peux continuer encore hein, parce que best game
tu disais que ouais au début peut-être tu comprenais pas vraiment la première fois que tu l'as vu chez ton pote t'étais pas convaincu et tout est-ce que c'est ton premier RPG ou pas
même pas enfin c'est mon premier RPG au tour par tour okay. Parce que j'avais fait des actions RPG sur Super NES etc il y avait les Secret of Mana qui étaient aussi de Squaresoft aussi à l'époque
je pense que...
qui m'avait bien plu et du coup je pense que c'est même si je pense que le Final Fantasy VII a mis le dernier coup vraiment sur ma passion pour les RPG japonais je pense que les Zelda c'est les c'est Link to the Past je crois qui est sorti sur Super NES qui était ouais. Déjà un action RPG etc un jeu d'aventure et Secret of Mana ça a un petit peu créé c'était un petit peu les bases aussi des premiers RPG auxquels j'ai joué avec des ouais. Univers hyper grands hyper travaillés avec des histoires hyper profondes et des grandes quêtes épiques que tu dois mener avec ta bande de potes et tout et c'est juste que moi au moment où j'ai joué à FF7 c'était le summum de ce que je pouvais vivre en termes de RPG japonais et du coup même maintenant en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu ça j'ai l'impression que maintenant quand je joue à un RPG, je joue à d'autres styles de jeu, hein, évidemment, je suis pas maintenant monomaniaque et tout, mais quand je joue à un RPG japonais, je pense que j'ai envie de retrouver les sensations que j'ai eues quand j'ai découvert FF7 et d'avoir une claque pareille, tu vois.
Okay.
Ce qui n'est jamais arrivé.
est-ce que les autres que tu fais, du coup, est-ce que tu arrives quand même à les finir ou au bout d'un moment, juste ça t'ennuie?
Non, moi je suis un complétionniste. Moi, je finis les jeux quand je les commence, parce que c'est comme un livre, comme un film. En fait, tu sais, j'arrive pas à me dire de tu commences quelque chose et tu ne le termines pas. C'est-à-dire que même si ça ne m'intéresse pas, il faut que j'aille au bout de la proposition et que j'essaie de comprendre le truc. Donc, j'ai fini tout.
Moi, j'arrive pas. Moi, j'ai pareil que toi parce que j'ai joué à c'était Mario Luigi qui était un action RPG aussi.
Ouais.
Et après Paper Mario.
Ouais.
Très très bon Paper Mario. Ouais.
Celui sur GameCube, mais tous ceux après ceux sur GameCube, c'est des catastrophes. Non, mais parce qu'en fait, il n'y a plus d'RPG parce que tu changes pas de personnage ou quoi.
Ouais.
Sur ceux sur GameCube, tu choisissais un peu ton équipe, tu sais, t'étais là, ils te proposaient, hey, tu veux que je te rejoigne? Puis t'étais là, oui, non, ou bien tu le gardais ou pas dans ton équipe.
Ouais.
Je joue au dernier sur Switch, là. Enfin, je sais pas, les combats, ouais, ils sont monotones, il n'y a rien qui change.
Ouais, bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi j'ai ma fille qui l'avait pris, qui l'a fait Paper Mario sur la Switch, donc du coup j'y ai joué, mais tu vois, je l'ai pas fini parce que pour moi effectivement c'est pas un RPG. Je pense que les RPG japonais tels que je l'imagine, t'as une formule en particulier que je retrouve pas forcément dans les Mario. Et effectivement là c'est hyper répétitif, c'est un peu en plus c'est dans le monde de Mario on connaît etc et tout. Donc
ouais, mais le minimum tu sais c'était genre parfois il y avait un vieux personnage mais de n'importe où tu le sauvais ou tu l'aidais et là il était en mode hey, je peux rejoindre ton équipe et, là, bah, vas-y. Et là tu changeais tout parce que tu jouais moins avec Mario, enfin tu jouais avec Mario mais tu pouvais choisir avec qui tu jouais.
Ouais.
Puis il y avait un potentiel là sur Nintendo Switch, il y a quand même un potentiel, mais non, c'est juste une histoire ultra monotone avec genre... enfin je sais pas. Ces trucs-là sont toujours bien notés, mais je comprends pas. Quand t'as joué à Dancien, tu te dis, c'est genre.
Ouais, ils refont plus ou moins la même chose, mais on manque bien.
Ouais, c'est ça ce que je comprends pas, c'est que la mécanique qui marchait bien, que tout le monde aime, on l'a retirée.
Ouais.
Tu sais, le fait de monter de niveau, le fait que ce soit de plus en plus dur, parce qu'il y a quand même un truc de niveau, là, il y a rien de dur, honnêtement. Même le timing, il est. Tu peux battre tout le monde, quoi. Le game over, il est.
Impossible.
Difficilement atteignable, tu vois, genre, ouais. Même en essayant vraiment à fond, c'est quasiment impossible d'être.
Oh, mais non, parce que même dans les RPG, je pense que c'est un petit peu la base de te retrouver un moment où tu meurs au moins 50 fois et que tu réessayes 50 fois. Là, je suis en train de jouer à Bravely Default 2 sur Switch, qui est aussi un jeu de Square Enix. Et honnêtement, je sais pas pourquoi ils appellent ça Bravely Default alors qu'ils auraient appelé ça Final Fantasy autre chose. C'est parce que c'est pareil. C'est pareil. Franchement, ils sont trop marrants parce qu'ils sortent plein de RPG. C'est plus ou moins la même chose. Ils donnent des noms différents. Mais au final, c'est Final Fantasy quelque chose. Et là, c'est un petit peu ça. En gros, en plus, t'as quatre persos. Genre, les héros de la lumière, comme dans un autre, dans les précédents Final Fantasy. Je crois que c'était dans le 4 où ils ont commencé à intégrer. Intégrer cette notion-là des quatre héros de la lumière qui sont des élus et qui doivent se battre contre une entité démoniaque et tout. Là, c'est exactement ça. C'est du tour par tour. T'as différents ce qu'ils appellent des dans les autres jeux, c'était des jobs. Là, c'est des classes que tu attribues et du coup tu développes des compétences liées à ces classes. Et tu peux essayer de créer tes équipes et tes combinaisons pour battre après les ennemis et tout en fonction. Et ouais, là, pareil. Il y a des moments où ça fait. Après, j'y joue pas régulièrement, mais j'ai l'impression que ça fait genre peut-être un an que je suis dessus, tu vois. Mmh. Et j'ai toujours pas fini. Enfin là, je commence à arriver vers la fin, je sens. mais ouais, c'est la base, c'est qu'effectivement, c'est tu meurs, tu réessayes, tu changes de combinaison, tu t'arrives une autre classe à ton perso, tu changes d'arme, tu dis ah bah tiens, en fait, t'essayes en voyant que tel ennemi te met telle faiblesse, etc. Donc tu adaptes après tes. Enfin bref, il y a trop de nuances. Voilà. Et effectivement, si c'est trop simple, si c'est juste donne-moi un marteau. Donne-moi des grosses semelles.
Non, mais là, littéralement, Mario, c'est tu mets un coup de pied ou tu sautes. Genre, il n'y a que ça comme option, en fait. Donc,
ouais. Non, bah, ouais. Il doit y avoir un intérêt, de, justement, dans ce côté un petit peu simple. Je sais pas. C'est...
Mais je me rappelle, sur GameCube, tu pouvais devenir un avion ou tu pouvais devenir un rouleau ou des trucs comme ça. Et ça, tu peux l'utiliser en combat aussi, en fait, quand tu fais ce truc-là. Ouais, pareil.
Bon. Ouais, il y avait des nuances, quoi.
Il y avait de la complexité. Et on retourne au cahier qui amène les complexités. Et moi, je trouve que c'est ça ce qui est intéressant dans les RPG partout. En tout cas, c'est qu'il y avait de la complexité et pas, à moins que l'histoire soit incroyable.
Ouais.
S'il n'y a pas de complexité, je vois pas l'intérêt du jeu.
Ouais, non, c'est sûr.
On va clôturer, du coup, le chapitre Final Fantasy pour continuer, du coup, parler de ton troisième et dernier jeu. Pour finir, du coup, on retrouve Journey, développé par That Game Company et édité par Sony. Donc, le jeu indé moitié walking simulator, moitié action-aventure, qui est souvent classé comme étant l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, par l'expérience qu'il propose aux joueurs. C'est sorti en mars 2012 sur PlayStation, puis quelques années plus tard sur PS4, PC et même iPhone. Par où commencer? Quelle était ton expérience?
Moi, ce jeu, j'ai découvert un peu par hasard. En vrai, c'était un peu une hype à un moment, parce que ce jeu, j'ai dû le faire justement, moi, parce que j'ai bien fait mes devoirs. J'y ai joué un peu plus tard que hier soir.
Trop bien.
Pour essayer de me remettre dans le truc et comprendre, parce que c'est vrai que je l'ai mis dans ma liste des trois jeux qui m'ont marqué. Et en y réfléchissant, je me dis mais pourquoi il m'a marqué? Et j'ai rejoué hier et j'ai compris pourquoi il m'avait marqué. Je vais revenir dessus après. Mais effectivement, ouais, il y avait une hype autour de ce jeu. On disait que Game of the Year, en fait, que c'était trop bien, etc. Ouais. Et tout. Et du coup, je l'ai téléchargé et j'ai joué par curiosité. C'est sur je crois que c'était, j'ai même pas sur PS4, c'est sur PS3, je crois, à l'époque, quand je l'ai eu, la première fois. Et là, tu découvres un jeu. C'est même pas un jeu, c'est une expérience, en vrai. Mm. Parce que, T'as pas de HUD, t'as pas de d'informations, mais d'interface, etc. On te dit juste
zéro texte en plus.
Zéro texte. T'as que la musique, ton personnage et les sons. Et on te dit juste appuie là pour faire ça, dirige ton perso comme ça. Et ensuite ça s'explique. Le jeu se déroule de lui-même et il est très court. Il fait franchement, tu le finis en genre 2 heures, un truc comme ça.
Ouais.
Mais je pense que c'est 2 heures qui, en termes de sensation, en termes de sensoriel, voilà, en termes sensoriels, que ce soit la vue, justement, les l'ouïe avec la musique, le toucher avec la vibration, etc. et tout, qui t'apporte tellement qu'en 2 heures, ça te condense les 150 heures que tu peux faire dans un jeu, dans un open world ou je sais pas quoi, parce que c'est En fait, c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai rejoué hier, alors que le jeu, honnêtement, hein, j'ai dû y jouer. Franchement, je l'ai fait plusieurs fois quand même, quand, au moment où j'ai joué la première fois, peut-être 3-4 fois, un truc comme ça. Okay. Et là, franchement, on est en 2022, j'y ai pas rejoué probablement depuis dans les 4 dernières années, un truc comme ça, 4 ou 5 dernières années, tu vois. Et là, je le reprends. Et tu sais, t'es toujours comme ça, on te dit, ouais, c'est bon, le souvenir que j'en avais, je suis sûr que je vais y rejouer, ça va pas être pareil et tout. Et non, mais en fait, tu le reprends, tu comprends tout de suite. Alors, tips, hein, pour ceux qui veulent, si jamais vous voulez le redécouvrir, jouez-y au casque, d'accord, pour avoir vraiment la musique et les trucs. Jouez-y potentiellement dans le noir et vraiment, il faut se laisser imprégner par l'univers et tout. Enfin, se laisser imprimer. Honnêtement, t'as même pas besoin de le truc te prend. Le truc te prend direct, en fait. Parce que, justement, comme je disais, le gameplay, il est simple. On te dit juste, va à droite, enfin, déplace-toi comme ça, fais ci, fais ça. Et ensuite, le jeu se déroule au fur et à mesure et t'as limite besoin de rien faire et t'es juste en train de suivre ce personnage. On te dit, tu es ce perso, tu dois aller là-bas. Et du coup, t'y vas. Mais le truc, c'est que tu découvres l'histoire de ce monde qui se déroule au fur et à mesure. Tu passes par des t'as l'impression d'être juste dans un désert entre le désert qu'il y a entre toi et le sommet de cette montagne, mais les décors qu'on t'offre, mais c'est des claques à chaque fois. Moi, c'est marrant parce que hier quand je l'ai fait, bizarrement, je l'ai fait une fois et je suis arrivé directement à la dernière phase du jeu. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis passé par un endroit et directement j'étais en haut de la montagne dans le froid et tout, et je me dis, mais je me rappelais pas que t'arrivais aussi vite et tout. Je me dis, attends, non, je suis sûr qu'il va y avoir une prédiction et je vais revenir au début et je vais refaire le jeu. Et non, après j'avance et je finis le jeu. Je me dis, bah c'est bizarre, parce que moi il y avait un moment en particulier qui m'avait marqué dans le jeu et que je voulais absolument refaire, et du coup j'ai fini le jeu là en faisant cette espèce de raccourci, et je me suis dit non, je peux pas truc, il faut que je retrouve cet endroit qui m'a marqué et que je veux absolument refaire. Du coup je refais le jeu depuis le début. C'est vrai qu'en plus c'est ça, hein, c'est que t'as une espèce de boucle, parce que tu finis le jeu et tu reviens un petit peu au début et t'as juste appuyé sur X et on te dit nouveau périple, je refais un nouveau périple avec le perso et tout. Et là, je refais le jeu en entier et là j'arrive dans les trucs ou même des trucs que j'avais oubliés, où t'as des décors. T'as toujours cette montagne en fait en fond, et à chaque fois t'as c'est pas vraiment des niveaux, c'est vraiment des espaces plus ou moins clos, mais à chaque fois t'as une patte artistique et un design qui t'est proposé et t'es obligé d'adhérer. Moi, la partie justement que je voulais revivre et qui m'avait marqué, et là limite j'en ai eu des frissons, presque des larmes aux yeux quand je l'ai refait là. C'était un moment où, vu que t'es dans un désert, donc t'as le moment où le perso court, etc., et dès que t'es sur des dunes un peu raides, tu sais, il a tendance à glisser. Il y a toute une partie justement où tu glisses un petit peu, où t'es un petit peu, où tu limite tu fais du surf sur le sable et tout.
Où c'est hyper doré et tout là.
Oh là là.
Ouais. Oh là.
t'es dans un genre de coucher de soleil et t'as le sable justement où avec les reflets un petit peu dorés, t'as l'impression de glisser sur de l'or et limite ce que tu pourrais prendre comme un truc hyper saturé où justement tu limites, tu vois pas le perso, bah non, parce qu'en fait t'es plongé dans cette espèce de mer de poudre d'or, etc., avec des idées de mise en scène et la caméra qui change et qui te prend dans le truc. Et honnêtement, dès que je l'ai refait, j'y vois là pourquoi. Parce qu'en gros, pour moi, la perfection, on aime bien dire oui, la perfection n'existe pas, mais pour moi la perfection, elle existe quand dans un objet ou un produit, tout ce qui le compose fait sens et se répond les uns aux autres, et tout est logique en fait. Et le produit, on te le propose comme ça, et t'as rien à dire parce que en fait, la musique, tu veux la changer ? Bah non, en fait, parce que t'as ces petits violons, t'as l'impression d'être, t'as ce côté un petit peu oriental parce que t'es dans le désert, etc. Et la musique va avec l'univers, et en plus c'est la musique elle répond un petit peu à tous les axes de gameplay, à différents moments où t'es en train de des différentes expériences que tu fais. T'as les décors qui sont justement hyper simples, les graphismes sont hyper simples, et justement, est-ce qu'il serait pas trop simple quand on arrive en 2022, etc. Fait bah non, parce qu'en fait là même le jeu il continue d'être magnifique parce que justement Zed Game Company se concentrait sur l'essentiel pour te proposer leur univers, et que t'as pas besoin de plus. Donc du coup, les graphismes sont simples, ça fonctionne, le gameplay est simple, t'as pas besoin de plus. La musique, les sons, l'univers, les visuels, tout se répond et tout fait sens. Et du coup, bah en fait, tu peux pas faire mieux. Et là, moi, franchement, ce jeu, là, j'y ai rejoué hier et je sais que j'y joue dans 10 ans, j'y joue dans 15 ans, j'y joue dans 20 ans. Tu me le mets en casque VR, tout ce que tu veux, en réalité augmentée, tu me le mets dans le métaverse, vu qu'apparemment c'est ce qu'on est en train de faire. Je pense que même là, avec la manette et un casque, je pense que c'est le jeu qui continuera d'apporter exactement les mêmes sensations parce que voilà, c'est vraiment un jeu parfait dans ce qu'il propose et dans la manière dont tu peux en profiter. En fait, tu peux pas, pour moi, il y a rien à changer, il y a rien à enlever, juste tu le prends, tu y joues et tu kiffes ce qu'on te propose et comme je le disais, avec tous les sens, quoi, que ce soit la musique, les touches avec les vibrations, enfin, jeu culte, quoi.
Je me posais une question là sur t'en as un peu parlé, mais sur l'aspect visuel, justement on en parlait avec Nuit Vagable qui a fait notre illustration pour le podcast, et lui aussi, il a mis ce jeu parmi ses top 3.
Ouais.
Il disait que ouais, le chara-design et la shape même du personnage est quasiment parfaite, quoi. Toi aussi, qui fais du dessin, quel est ton... Comment tu vois la chose? Comment
bah,
tu...
c'est carrément, en gros, limite, quand je vois, moi, ce genre de proposition artistique, ouais, c'est exactement le genre de truc où je me dis, moi, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux que en fait, qu'une personne regarde mes dessins et comprenne tout ce qui se passe derrière, comprenne limite la réflexion qui a été faite dans les choix, justement, de la manière de représenter ce que tu représentes. Mmh. Et justement, dans cette simplicité, on ressent quand même de la complexité et de la réflexion. En fait, justement, il y a tellement tout qui se répond et qui est tellement logique que tu peux pas le regarder et te dire que c'est simple, mais que c'est facile. Et effectivement, moi, dans mon ça, là, ce que je me faisais, en plus cette réflexion hier quand j'étais en train d'y jouer, je me suis dit c'est exactement le genre de choses, moi, en dessin, que j'aimerais bien être capable de reproduire. C'est-à-dire que tu vois le truc et tu comprends en gros que rien n'est fait au hasard et que tout se répond et propose quelque chose qui est vraiment cohérent, quoi, et que tout se tient autour d'un univers, d'une histoire, enfin. Moi, ce qui me flingue, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de parole. T'as pas de parole, t'as que du son, t'as rien qui, t'as tout qui t'est expliqué, qui t'est suggéré, mais tu comprends tout. Et honnêtement, en termes de en tant qu'artiste, bah, toi, je mets le chapeau d'artiste, ça me gêne un peu de me dire ça comme ça, mais c'est vrai que moi, dans les choses que j'aime bien en illustration, en tout cas, de la manière dont ça peut m'inspirer, c'est qu'en effet, tu cherches à chaque fois à faire en sorte que quand les gens voient ce que tu fais, qu'ils comprennent où tu veux aller sans que t'aies forcément besoin de le dire. Et je pense que c'est en ça que le jeu est vraiment parfait, quoi.
C'est sûr. On arrive déjà sur les questions de la fin. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des jeux que tu es en train de faire en ce moment?
Bah moi, le jeu que je suis en train de faire en ce moment, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Bravely Default, sur lequel je suis depuis un long moment. Parce que je pense qu'en termes de rythme de jeu, enfin là, je fais tellement de trucs entre le taf, la famille, le dessin etc. J'ai pas forcément le temps de beaucoup jouer, etc. Mais honnêtement, Bravely Default, c'est un très très bon RPG japonais, justement, comme je dis, qui est assez qui reprend les bases un petit peu qu'on connaît pour les personnes qui apprécient les RPG japonais. Et ils se retrouveront assez facilement. Donc sur ça, c'est quand même assez cool. Puis le jeu est beau, l'histoire est belle, les personnages sont attachants. Et il y a un vrai propos derrière, donc c'est quand même très très cool. Sinon, je joue à Animal Crossing. Alors les gens me jugent beaucoup parce que genre depuis que le confinement est terminé, normalement ça doit être la fin d'Animal Crossing et t'as plus le droit d'y jouer. Moi, écoutez, non. Je rends de temps en temps en visite à mes habitants. Je vais les checker un petit peu, voir comment ils vont. En plus, vu que en plus chaque fois que tu y vas, ils disent quand il y a pas allé depuis un petit moment, ah là là, ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir, etc. et tout. Donc tu vois, c'est bien de te retrouver dans un endroit où tu es apprécié aussi. T'es cumé les pieds, tu vois. Donc voilà, non, Animal Crossing, Game of the Year de l'année dernière, tu peux continuer à y jouer. C'est très chill, en fait. C'est le genre de jeu chill. Tu y vas, tu te poses, tu fais tes petits trucs, tu vas récolter tes fruits, te changer un petit peu, t'acheter une petite tenue un peu stylée et parler à tes habitants, et honnêtement, ça le fait. Donc c'est très cool. Mais ouais, sinon, là, je prévois, moi, de prendre... The World Ends With You, Neo The World Ends With You, qui est sorti là sur, je crois, sur toutes les consoles de la Terre. Je pense qu'il est sur PS4 et sur Switch aussi. Je pense qu'une fois que j'aurai fini Bravely Default, parce que je le prends pas encore, parce que je sais que si je le commence, je vais pas pouvoir le terminer. Mais The World Ends With You, qui est un autre jeu de Square Enix, qui est character designé par Tetsuya Nomura aussi, avec un côté très pop culture Jap, très animé, très manga, etc., qui moi me parle beaucoup. Donc j'ai fait les premières minutes en démo là, à Noël, là. Je me suis dit, ouais, il me le faut, donc je le prendrai. Et voilà, c'est ce qui est prévu là sur ma liste. Et je pense que j'ai pas fini non plus de revenir sur Breath of the Wild, parce que trop bien. Breath of the Wild 2, qui sort cette année aussi, on a hâte.
Peut-être.
Ah ouais, c'est ça. Peut-être. Ah, il va. Ouais. Mais c'est pas sûr qu'il sorte en 2022.
Bah, c'est les rumeurs de leak, de machin, de trucs, non?
C'est son relou. Non mais attends, c'est bon, Breath of the Wild, ça fait depuis il est sorti quand, en quelle année? Moi genre, en tout cas j'y joue depuis 2017, et genre depuis là tu me le redonnes, j'y retourne dessus, je suis content, mais voilà. On la suite quoi,
normal,
trop cool.
Peut-être un mot de la fin avant qu'on se quitte, Mustapha?
Un mot de la fin, franchement, vous assurez, votre podcast, il est vraiment cool. Moi, je suis content de l'écouter à chaque fois que vous proposez des épisodes. C'est pour ça que je le repousse à chaque fois, parce que je me dis, les gens, il faut que vous veniez. C'est chill. Juste écoute, tu parles de jeux vidéo, tu partages tes expériences. Donc, en plus, pour peu que t'aies un petit peu joué aux jeux que les jeux dont les gens parlent, tu te projettes de ouf. Il y avait un de vos invités qui parlait la dernière fois de Dragon Ball Z2 sur Super Nintendo. Je sais plus c'était qui, et honnêtement j'étais grave avec lui. T'écoutes le truc et tu dis, ah ouais, quand tu tapes sur un comme ça de ouf pour les combats de boules, etc. et tout machin. Et honnêtement, c'est ça qui est cool, c'est que l'ambiance elle est chill, et franchement vous faites un taf super cool, donc continuez comme ça. C'est juste tout ce que j'ai à dire. Du temps. Merci. Et des jeux, saison 28.
Let's go. Bon, on va essayer. Merci beaucoup pour ton temps.
Merci beaucoup,
c'est cool.
Merci à vous.
Et on se dit à une prochaine.
À plus.
Ciao. C'était Du Temps et des Jeux. Musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine.